heureux de vous revoir en grand nombre, de plus en plus nombreux chaque dimanche. Et alors que je réfléchissais cette semaine, je me disais, au plus j'avance dans ma foi, au plus je me rends compte que j'ai chaque jour une décision personnelle, moi, individuelle, à prendre pour avancer dans ma foi. Personne d'autre que moi ne peut prendre des choix pour que je puisse m'approcher de Dieu chaque jour. Ça, au plus j'avance dans la foi, au plus je comprends que c'est une décision personnelle que je dois faire à chaque jour. Par contre, au plus j'avance dans ma foi, au plus je comprends que ma décision personnelle de suivre Jésus est beaucoup influencée par la communauté qui m'entoure. Et aujourd'hui, alors que je réfléchissais à ça pour mon message aujourd'hui, où on va prêcher sur l'église locale, l'importance de faire partie d'une église locale, au plus je me disais, ma foi ne serait pas aussi solide aujourd'hui si je n'étais pas impliqué dans une église locale depuis mes 16 ans. Alors que j'ai grandi dans l'église, à 16 ans, j'ai pris une décision non seulement de participer à l'église, mais de devenir moi-même l'église. Alors que j'ai été sauvé par grâce, par Jésus, mais j'ai demandé pardon pour mes péchés, mon cœur a été transformé et je suis encore en train de travailler, vous inquiétez pas, je ne suis pas parfait. Mais depuis mes 16 ans, je fais partie de l'église locale, je sers, j'œuvre et je reçois tellement de l'église locale qu'aujourd'hui, je peux dire que si je suis moindrement solide dans ma foi, c'est grâce aussi aux autres. Au plus je grandis dans ma foi, au plus je prends conscience qu'il y a une décision individuelle à prendre, personnelle, chaque jour. Mais au plus je comprends que celle-là est grandement motivée par la communauté qui nous entoure. Et c'est pour ça, j'espère que vous êtes heureux et fiers d'appartenir à une église locale qui avance, qui a une vision, qui prêche la parole, christocentrique, qui vient, qui célèbre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et que nous pouvons être aussi forts que ce que l'église locale est forte aux côtés de nous. Au plus tu grandis dans ta foi, au plus tu dois réaliser que c'est toi seul devant Dieu qui dois avancer, mais toi aussi qui dois t'entourer et entourer les autres pour qu'eux avancent. Si je ne suis pas entouré, je suis seul, isolé, fragile et en danger. Avez-vous déjà vu les reportages animaliers? Les lions ou un petit peu les prédateurs attendent toujours l'animal qui va se séparer du groupe. Souvent, c'est un jeune qui court pas aussi vite ou qui à un moment donné, il voit une fleur, il s'échappe. Et puis là, le lion, quelque chose, là, il rôde et puis ils se disent, OK, celui-là, je vais le prendre. Vous savez, il y a un combat spirituel. Hein. On est pas, même si aujourd'hui, on vit dans la victoire de Christ, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat. Et l'ennemi est comme un lion qui rôde et qui regarde qui va être le plus fragile, isolé. Et ce n'est pas parce que si en ce moment, dans ta foi, tu es fragile, si tu es bien entouré, tu es protégé. Par contre, ça se peut aujourd'hui que tu sois fort dans ta foi, mais si tu es isolé, tu es en danger. Autant le côté personnel est important, autant le côté communautaire est très, très important. Et si vous êtes heureux d'être faire partie d'une communauté qu'on appelle le corps de Christ, l'Église universelle et l'Église locale qu'on représente ici à la Prairie, est-ce que vous voulez juste remercier Dieu en applaudissant, en disant merci Seigneur pour le corps de Christ, pour ce que nous vivons aujourd'hui. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Ensemble, nous sommes plus forts ». Et je ne peux pas le dire tout seul, j'aimerais que vous le disiez avec moi, OK? Ensemble, nous sommes plus forts. Dites-le comme si vous le croyez, OK? Une dernière fois. Ensemble, nous sommes plus forts. Le désir de Dieu a toujours été de se révéler à l'humanité en se servant de l'humanité. Alors que Dieu donne une promesse à Abraham qui dit, « Toi, de toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » Il y a comme quelque chose qui est lancé. Il choisit d'être en partenariat avec l'humanité pour sauver aussi l'humanité. Alors d'Abraham, ensuite là, Jacob, son nom va être changé par Israël, et ses 12 fils vont devenir les 12 tribus d'une famille, donc d'un homme, Abraham, à une famille, Isaac, Jacob a la 12 enfants, et donc les 12 tribus, une famille va devenir une nation, et de cette nation va naître Jésus-Christ, le sauveur du monde pour l'humanité. Et alors que Jésus avance dans son ministère, il choisit 12 hommes. Il avait 12 disciples, il avait 70, il y en avait des foules qui le suivaient, des hommes et des femmes. Mais à chaque fois que Dieu décide de se révéler, il décide de se révéler aussi à travers des hommes et des femmes disposés et disponibles à le servir. Et alors, jusqu'à nous aujourd'hui, alors que les disciples ont été partout dans le monde évangélisés, apportés la bonne nouvelle de Jésus-Christ, aujourd'hui vous êtes là parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont enlevés et qui ont dit « on croit que Dieu se révèle à nous et on va former des communautés pour être fortes dans nos villes, dans nos régions, dans notre monde ». Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, vous et moi, nous sommes sauvés par grâce, nous venons demander pardon à Jésus pour nos péchés, il nous sauve, il nous ajoute à son Église. n'est pas vous qui vous ajoutez à son Église. C'est lui qui vous ajoute à son Église. Parfois, on pense, on fait une faveur à Dieu. Hey, je viens à l'Église dimanche. Non, non, c'est par grâce que nous venons. Nous sommes annexés à son corps. Nous faisons partie de l'Église universelle. Et Dieu nous demande de le servir à travers notre Église locale pour que nous puissions être la lumière du monde. Et j'aime cette citation qui dit que Jésus est l'espoir du monde. Et l'Église locale est la voix qui proclame cet espoir au monde, qui dit Amen. Jésus est ici exalté, élevé. Nous prêchons la bonne nouvelle de Jésus, qu'un seul nom peut nous sauver. Qu'en fait, il n'y a qu'un seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Et l'Église locale, au plus elle a une voix forte, au plus son corps est uni, au plus il sert, au plus il aime, il sert sa communauté, au plus Jésus est exalté et il fait des miracles. Et si chaque dimanche, il y a des personnes qui s'ajoutent à cette réunion, qu'elles soient chrétiennes ou qu'elles soient nouvelles, si vous êtes là en disant ben, « j'ai été invité, je suis le premier, c'est mon premier dimanche ici », sois le bienvenu. Même si tu penses ne pas encore faire partie de cette Église, nous t'aimons. Et c'est incroyable parce que l'Église locale est la seule place où tu peux rentrer comme un étranger et sortir comme un membre de la famille. Est-ce qu'on peut applaudir Dieu qui a une idée incroyable avec son Église, une famille incroyable? L'Église annonce gratuitement ce que des milliardaires sont prêts à payer cher. Je regardais cette semaine Elon Musk, l'un des hommes, je pense peut-être l'homme le plus riche de la planète, si on peut mettre l'image. Jeff Bezos qui a investi dans un laboratoire qui promet la vie éternelle. Il lance des millions et des millions de dollars. Bon, il en a beaucoup, là, mais il lance des centaines de millions de dollars pour essayer de trouver peut-être un remède à la vie éternelle. J'imagine que lui, il a de quoi profiter pendant toute une vie éternelle. Mais il y a quelque chose de fort parce que des milliardaires sont prêts à payer des fortunes pour ce que l'Église offre gratuitement, le salut en Jésus-Christ, la vie éternelle. Et non pas dans ce monde qui est déchu, mais dans un monde qui sera glorifié avec la présence de Dieu, avec l'amour, la paix, la joie, plus de chaînes, plus de peur, plus de peine, plus de stress. Est-ce qu'on est heureux de pouvoir gratuitement présenter ça, non seulement à des milliardaires, mais aussi à des personnes qui souffrent en ce moment, dans la pauvreté, dans la souffrance, dans la maladie, qu'il y a un espoir et que son nom est Jésus-Christ et qu'ici, on va le proclamer tant et aussi longtemps que Dieu ne revient pas nous chercher. Et c'est notre mission. Les gens sont prêts à payer des millions pour trouver ce que Jésus offre gratuitement et ce que l'Église doit présenter. Mais si l'Église est aussi forte et est une lumière appelée à briller fort, c'est que nous avons tous une part à jouer. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde à trois choses que la parole nous demande de faire et d'être, de travailler chaque jour, chaque dimanche, pour que l'Église puisse devenir de plus en plus forte, de plus en plus belle, briller de plus en plus fort. On va lire le texte qui se trouve dans Philippiens 2, versets 2 à 4. C'est Paul qui parle à une Église qu'il a fondée. Et alors qu'il est en train d'encourager, parce que cette Église est vraiment exemplaire, il continue à la défier. À dire, vous avez un travail à faire et je vous encourage à le faire. Et par l'Esprit de Dieu qui va vous renouveler, vous allez être capable de l'accomplir. Alors, est-ce qu'on pourrait ouvrir nos cœurs et ce matin prendre la parole qui a été écrite il y a des milliers d'années par Paul, mais inspirée par Dieu pour bénir toutes les églises locales dans l'histoire de l'humanité? Ouvrons nos cœurs à ce que Dieu veut nous dire. Philippiens 2, 2. Ayez un même amour, il parle à l'Église, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Amen. Quelle force! La première chose qu'il nous rappelle, c'est que nous devons être un, unité. Parce que l'Église est forte dans son unité. Paul le rappelle, soyez d'un même, un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Il y a comme quelque chose où vous devez tous marcher d'une même manière. Pas forcément d'être tout le monde pareil et qu'on doit tous s'habiller pareil, parler de la même manière, écouter la même musique. Non, dans nos différences, l'Esprit de Dieu va nous unir pour que nous, par notre unité, nous soyons forts. Une église divisée est une église qui est en danger. Et que jamais rien, ni personne, ni aucune circonstance, comme les deux dernières années qu'on a vécues avec les confinements et tout ça, que rien ne puisse nous séparer. Et l'unité est aussi forte qu'elle est fragile. Si nous ne travaillons pas à continuer à garder l'unité, à un moment donné, elle s'effrite. J'ai déjà vu des couples incroyablement amoureux faire tout pour l'un et l'autre, se sacrifier, mais à un moment donné, laisser une brèche, devenir les pires ennemis. Quitte à se faire la vengeance pendant des années après. L'unité qui était tellement forte et qui était belle est devenue en fait une pierre qui est lancée contre l'autre. Est-ce qu'on peut comprendre que l'Église de Christ, non seulement dans l'Église locale, mais au travers des églises locales partout, est-ce qu'on peut se regarder en priant les unes pour les autres? En ce moment, alors que je préparais ce message, je prêchais pour mon église ici à la Prairie, mais en même temps, je me disais, Seigneur, il y a tellement d'autres églises autour de nous. Est-ce qu'on pourrait prier pour elles? Est-ce qu'on pourrait les encourager? Et puis des fois, on n'est pas d'accord sur tous les points et tout ça, puis il y a des zones un petit peu grises. Alors il y en a un qui prend plus blanc et un qui prend plus noir. Mais peu importe, c'est si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, est-ce qu'on peut célébrer ensemble parce que nous sommes frères? Nos différences ne nous rendent pas incomplets, au contraire, elles nous rendent complémentaires. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. L'unité, c'est que malgré nos différences, nous travaillons ensemble pour un seul but. J'aime la citation de John Wooden. Il est considéré comme le plus grand entraîneur universitaire de basketball. Il a gagné des dizaines et dizaines de prix. Et puis il dit, un joueur de basket qui va rendre son équipe grande a plus de valeur qu'un grand joueur. Se fondre dans le groupe pour le bien du groupe, voilà ce qu'est le travail d'équipe. La star de l'équipe, c'est l'équipe. Ici, il n'y a personne qui est plus haut qu'un autre et plus important ou qui a plus d'importance aux yeux de Dieu. Nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes tous sauvés par grâce. Et marchant avec une grâce en disant, Seigneur, donne-nous. Et nous sommes tous unis. Jésus nous unit pour être son Église, pour pouvoir avancer. C'est pour ça que ce n'est pas un one-man show ici, l'Église, jamais. Et même s'il y a des ministères qui sont en vue et d'autres dans l'ombre, peu importe où tu es, tant que tu fais briller Jésus. Et nous sommes appelés à marcher avec unité. Jésus, la dernière prière qu'il a faite dans Jean 17, il prie à son Père pour ses disciples alors qu'il sait qu'il va quitter. Il prie 5 fois qu'ils soient un. Seigneur, Père, je te prie que mes disciples, que les chrétiens de l'Église, que l'Église universelle soient un. L'unité, comme nous sommes un. Il parlait de la Trinité. La Trinité, c'est l'unité la plus parfaite. Il prie que nous soyons un comme Christ était un, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Imaginez, c'est juste fou. Je sais que c'est un peu compliqué à comprendre des fois, mais c'est juste que Jésus a appuyé sur un côté de... Dans une seule prière, il parlait 5 fois qu'il soit un, qu'il soit uni. Il savait l'importance de l'unité, mais il savait aussi le mal qu'apportent les divisions. Est-ce qu'aujourd'hui, alors que le monde est divisé plus que jamais, les familles attaquées dans les divisions, dans les polarisations, des arguments, des choses et tout ça, est-ce que l'Église peut s'unir en disant, nous, peu importe ce qu'on croit, peu importe nos bagages, peu importe la manière dont on voit certaines choses, la société aujourd'hui, nous sommes unis par un même esprit et Dieu va, on va focaliser non pas sur nos divisions, non pas sur ce qui nous divise, on va focaliser sur ce qui nous unit, sur la grâce de Dieu et sur notre besoin de lui et notre joie de le servir. Est-ce que s'il y a une Église qui veut être unie, est-ce qu'on peut applaudir dire notre Dieu qui nous unit par son esprit et qui ramène son Église ensemble. L'unité nous protège, mais nous devons protéger l'unité. Si je vous pose une question aujourd'hui, es-tu un agent de paix ou un agent de division? Personne ne va dire non, j'aime diviser. Mais est-ce que dans tes propos en ce moment, les critiques sont plus fortes que les bénédictions? Est-ce que les analyses sont plus fortes que les encouragements? Est-ce que les sont plus fortes que les bravo? Waouh, il y a quelque chose de fort. Est-ce qu'ensemble, on pourrait se dire, si nous sommes unis, nous devons travailler les uns avec les autres? Travailles-tu intentionnellement à l'unité de l'Église? Et quand je regardais cette question, je me la posais à moi-même. Travailles-tu intentionnellement à l'unité de l'Église? Je suis comme, oui et non. En même temps, tu sais, l'Église est unie. Oui, mais si je ne travaille pas continuellement, intentionnellement à la garder unie, ça va peut-être prendre pour acquis et à un moment donné, ça va s'effriter. Je dois être renouvelé aujourd'hui dans mon côté. Seigneur, donne-moi de travailler pour l'unité des chrétiens. Et ceux qui veulent l'unité disent Amen. Si tu veux plus d'unité, prie. Prie pour quelqu'un. Prie les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Ensemble, soutenons-nous, encourageons-nous, célébrons-nous. Et alors, ce que Paul parle d'unité, la deuxième chose qu'il nous dit, c'est qu'il faut que nous soyons remplis d'amour. C'est la deuxième chose pour laquelle l'Église est forte et dans laquelle elle doit se fortifier. Pour un même amour, Hébreux 10, 24, l'auteur des Hébreux parle à l'Église aussi et puis il dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. » Pour nous inciter à l'amour. Ce que nous devons faire les dimanches matins quand nous allons dans les groupes, quand nous nous voyons, nous devons nous inciter à l'amour. Le terme « inciter » c'est « paroxysmos ». Qui vient du terme aussi paroxysme, qui a donné le côté où on doit rechercher la meilleure manière de nous aimer, de nous aiguiser, ça veut dire travailler, provoquer. Le but de la communion fraternelle n'est pas de profiter de relations agréables, mais de voir progresser les autres dans l'amour et les bonnes œuvres qui en découlent. Est-ce qu'en ce moment, j'aiguise mon frère pour l'amour? Est-ce que je lui dis, hé, regarde, est-ce qu'on pourrait ensemble faire cet acte d'être généreux envers cette famille? Est-ce qu'on est tout le temps en train de se défier à aimer plus les autres? J'espère qu'ici, sur le stage, on vous encourage. Mais ça ne doit pas seulement venir du prédicateur, ça doit venir de nous, chacun entre nous. Parce que nous sommes unis, nous devons nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Est-ce qu'en ce moment, tu défies quelqu'un à aimer plus son Église, à aimer plus Dieu, à aimer plus les gens du dehors de l'Église, à aimer plus les personnes qui sont nécessiteuses? Est-ce qu'en ce moment, tu défies quelqu'un? Si ta réponse est non, c'est peut-être que tu as une part à prendre dans l'Église. Peut-être à faire partie d'un petit groupe, peut-être à ouvrir ta maison, peut-être à t'impliquer. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire pour pouvoir inciter les autres à le faire? Quand l'Épître aux Hébreux a été écrit, c'est pas seulement pour les pasteurs. Veiller sur les autres et puis inciter-les à l'amour. Non, il parle à chaque chrétien. C'est pour ça que parfois on dit, non, mais moi je ne suis pas appelé à être pasteur. Non, mais tu es appelé à être un chrétien qui aide et qui aime et qui défie d'autres chrétiens. Un disciple, normalement, est censé faire d'autres disciples. Qui sont vos disciples en ce moment? Et ce n'est pas une condamnation. C'est le côté où, en ce moment, peut-être dans une société où on est tellement habitué à recevoir qu'on vit l'Église de manière à recevoir. Je viens pour être servi, comme au restaurant. Alors que l'Église, on est tous là pour montrer au monde comment nous pouvons manger la parole de Dieu, comment nous pouvons boire l'Esprit de Dieu, comment nous pouvons vivre une vie qui n'est pas seulement sur le côté matériel, mais spirituel. Et que peu importe nos circonstances, l'Église est là pour montrer que regardez comment nous vous aimons. Nous ne vous connaissons pas, mais nous vous aimons pareil. Et c'est ça ce que nous sommes appelés à faire, veiller les uns sur les autres, à vous inciter dans l'amour et à de belles œuvres. Cette semaine, j'ai appelé des chrétiens pour prendre des nouvelles et puis pour parler avec eux. Et j'ai beaucoup aimé parce que plusieurs fois, les chrétiens m'ont dit « Oh, avez-vous des nouvelles de telle personne ?» Parce que depuis la réouverture, je n'ai pas encore vu la personne, puis je n'ai pas son numéro. J'aimais ça parce que les gens... j'ai ouvert un ministère de placement. Oui, attendez, je prends des nouvelles de cette famille, je vous reviens, bien sûr. C'est comme si que je connaissais toutes les familles, j'espère. Puis chaque fois qu'ils me parlaient, je dis oui, je pense que ça va, mais ils sont passés par un temps difficile avec la santé, tout ça. Mais j'aimais parce qu'ils prenaient soin les uns des autres. Et parce qu'en ce moment, on est quand même une grande église, malgré qu'on essaye de la rester petite, deux réunions de plus de 150 personnes, on est plus de 300 les dimanches, de plus en plus chaque dimanche, on est là, les enfants reviennent la semaine prochaine, les poupons, ça va être génial, cet automne, on prie pour une grande moisson d'âmes. Mais de prendre soin les uns des autres, pas venir juste s'asseoir et recevoir, non mais donner, venir aimer, venir travailler à ce que nous puissions travailler notre amour, oui pour Dieu, mais pour les autres. L'Église, ce n'est pas juste tu viens et tu viens adorer Dieu. Non, c'est tu viens avec tes frères et sœurs adorer Dieu. Et Dieu répand sur l'Église quelque chose de fort. Une vraie famille. Sans l'Église locale, en fait, c'est difficile de veiller les uns sur les autres. Quelqu'un va me dire, non, j'ai un petit réseau, puis j'appelle les gens. Non, tu appelles tes amis. Mais avez-vous remarqué que l'Église est un des melting pots les plus incroyables et les plus improbables des gens de différents âges? Multigénérationnel, dans une société qui catégorise les générations. Les Z contre les X et les boomers et les trucs et les Y. Bref, si vous n'avez pas étudié en sociaux, ce n'est pas grave, là, mais il y a comme un côté où il y a une fragmentation générationnelle, même dans les familles. Mais l'Église est là pour dire, peu importe ton âge, des enfants jusqu'aux vieillards, on est là pour ensemble, tous unis, de la même manière, s'aimer et s'encourager à servir Dieu. Différentes cultures. Ou peu importe la couleur, peu importe la manière dont tu viens, ton bagage, ta langue même. On vient ici et chacun est sur le même niveau. Et j'espère que vous avez remarqué que la vision de l'Église Nouvelle Vie est une église multiculturelle à l'image de la société pour briller comme une manière incroyable de dire on ne regarde aucune différence ici. Qu'est-ce que si tu es sauvé par grâce, tes frères et sœurs, et si tu n'es pas sauvé par grâce, on t'encourage à venir faire partie de la famille. Peu importe notre âge, peu importe notre statut social, c'est facile d'avoir un groupe de très riches. Ben ouais, tu te tiens juste avec ceux qui te ressemblent. Non, l'Église, c'est les riches sont appelés à être généreux envers les pauvres et les pauvres à servir les autres et puis tout le monde à être comme ça et vraiment avancer d'une manière nouvelle que la société regarde en disant « Mais comment ça se fait que ça fonctionne ?» Et les gens ne sont même pas payés pour venir. Les gens ne sont même pas payés pour servir, mais ils se lèvent dans les petites heures du matin, le dimanche, pour venir servir une communauté que des gens, des fois, ils ne connaissent même pas. C'est comment que ça fonctionne, ça? C'est ça l'Esprit de Dieu qui nous encourage à aimer, à servir, à donner, à faire ensemble que nous puissions avancer toujours à l'image de Christ. Le christianisme individuel n'existe jamais dans la parole. vous verrez jamais. Oui, on est sauvé par grâce personnellement. Dieu nous appelle par notre nom. Une fois qu'on est sauvé, on est mis et pris dans le corps. Jésus ne va pas venir rechercher les chrétiens individuellement, il va venir chercher son Église ensemble. Quand vous remarquez, oui, il y a une décision personnelle que nous devons avoir avec Jésus-Christ, mais dès que nous avons pris cette décision, nous sommes appelés le corps de Christ. Nous devenons un membre à part entière de son corps, c'est incroyable. C'est pour ça que nous devons travailler ensemble. Je n'ai jamais vu un pied dire « Oh, moi, j'ai juste besoin de la tête ». Non, si le pied n'est pas sur la cheville et la cheville sur... Tous les membres fonctionnent ensemble. Et c'est par cette unité et c'est par cette envie de travailler ensemble que l'Église est forte. Si vous le croyez, dites « Amen ». L'amour fortifie l'Église à l'intérieur, mais l'amour la fait briller à l'extérieur. C'est Jésus, dans Jean 13, 34, qui dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » L'amour, c'est notre signature pour le monde. C'est fou parce que Jésus n'a pas dit, c'est parce que la manière dont vous allez faire ci ou vous allez faire... Non, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres, quand il parle aux chrétiens, il parle aux disciples. L'amour que vous allez avoir les uns pour les autres, c'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est fort parce qu'on pourrait dire, il y a plein de concepts sur lesquels ils pourraient comprendre qu'on est les disciples de Christ. Non, il va dire, ah, il y a l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Dans un monde qui là aussi prêche l'individualisme, moi au détriment des autres, l'Église est appelée à être différente. C'est toi avant moi, de regarder tes intérêts avant les miens. C'est ça l'amour, se sacrifier pour l'autre. Ouais, mais qu'est-ce que je gagne en retour? Tu gagnes juste que tu fais la volonté de Dieu. Et peu importe ce que tu fais, difficile ou pas, si tu fais la volonté de Dieu, tu seras exactement là où tu es à ta place, tu es appelé à vivre pour faire la volonté de Dieu et Dieu donne une faveur à celui qui lui obéit. Il y a quelque chose de fort quand l'Église comprend que nous devons travailler à l'amour, à l'amour. Et la troisième chose que Paul nous dit pour que son Église soit forte et qu'elle continue à se fortifier, c'est que l'amour est toujours conjugué pour l'action. Il n'y a jamais un côté où tu reçois l'amour et puis tu le gardes. Non, l'Église est appelée à recevoir l'amour de Dieu, à travailler pour notre amour ensemble, pour faire quelque chose. L'amour nous pousse toujours à l'action. L'amour nous pousse toujours à l'action. L'amour ne doit pas seulement s'entendre, il doit se voir, il doit se sentir. Il y a quelque chose de fort quand on vient ici et qu'on dit « Seigneur, je t'aime tellement que je veux te servir. J'aime tellement mes frères et sœurs que je veux les servir. » Il y a quelque chose de fort parce que quand Paul dit, il dit que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. L'amour, c'est toujours donner, toujours servir. Car Dieu a tant aimé, parce qu'il a tellement eu de l'amour pour nous qu'il a donné son Fils unique. L'amour en action. Si quelqu'un dit à son épouse, hey, « Je t'aime, chérie », mais qu'il ne lui montre jamais la manière pratique de lui faire plaisir, de la servir, à un moment donné, il va dire, « Mais si tu m'aimes, pourquoi ça ne se voit pas ?» Oui, je l'entends, mais je ne le vois pas. Chaque matin, ma femme aime, quand elle se réveille, avoir son café. Et moi, je suis pas forcément, je peux le prendre plus tard. Mais comme je sais qu'elle aime son café, ben, j'essaye de lui faire son café. J'aurais aimé comme un encouragement, mais c'est comme de base. Mais au moins, elle me dit merci chaque matin. Mais j'essaye, puis des fois, je suis comme, ah, mais j'ai pas le temps, puis je dois quoi. Je suis comme, oui, mais ça lui ferait plaisir. Et c'est ma manière de lui démontrer que je l'aime en la servant. Qui sers-tu en ce moment? Est-ce que tu sers ceux qui te servent aussi, puis il y a un côté où ah ben on est entre familles, en amis, on a notre cercle, et puis on est juste impliqué à côté des gens que nous aimons et qui sont proches de nous. Ou est-ce qu'en ce moment, tu as un cœur renouvelé par Dieu en disant, hey, est-ce que je pourrais servir les autres? Est-ce que je pourrais être plus intentionnel dans ma manière de démontrer mon amour? Non seulement envers les gens qui sont proches de moi, mais aussi à ceux qui ne sont pas proches de moi. Et l'une des meilleures manières de servir, c'est d'être l'image de Christ là où on est. Oui, de servir Dieu chaque jour de nos vies, ça c'est la base d'un chrétien. C'est de vivre pour briller pour la lumière. À notre job, nous devons propager le message de Christ en aimant les autres et en les servant. Oui, en étant intentionnel. Mais aussi, une des manières que Dieu nous demande de le servir, c'est d'être impliqué dans notre église locale. Parce que vous le savez, l'église locale est l'espoir et la voie qui propage l'espoir du monde. Et au plus une église locale est forte, au plus une église locale a une... a une voix forte dans la ville ou dans la société dans laquelle elle est. Et une église forte, c'est une église qui peut avoir tout ce qu'elle est censée avoir. Et ce qu'elle est censée avoir, c'est plein de ministères, mais qui sont soutenus par des gens qui s'impliquent et qui servent les uns les autres. Êtes-vous heureux quand on arrive là et puis qu'il y a des sourires qui vous accueillent? Bienvenue, soyez là. Que vous arrivez et puis que le sol est nettoyé et puis tout est beau et puis la température n'est pas trop chaude, pas trop froide. On arrive à l'automne, il y en a qui se disent, est-ce que la clim va s'éteindre? Jamais à nouvelle vie. Okay, vous aurez toujours froid les dimanches. Non, je plaisante. Mais il y a quelque chose de fort parce que quand on arrive, on se dit, waouh, on dirait que ça roule comme ça. T'sais, on dirait qu'on est servi comme wow, un plateau. Et puis beaucoup de personnes, même les gens qui arrivent pour la première fois, disent hey, il y a comme un côté où vous êtes une église à but non lucratif, mais en même temps, vous avez un standard professionnel. Vous essayez de faire attention à tout, de donner l'excellence sur tout. Oui, parce que non, on n'a pas de gains financiers à gagner à l'église, on a juste des âmes à gagner. Et si on donne notre excellence, parce que Jésus a donné son excellence, on va servir les gens de la meilleure manière dont on peut. Et est-ce qu'on peut célébrer et applaudir tous ceux qui nous servent avec excellence chaque dimanche, que ce soit dans le stationnement ou juste ici sur le stage? Paul nous dit, l'Épître aux Hébreux nous dit, pour vous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Mais j'entends des fois des gens qui disent, mais je ne sais pas quoi faire pour servir. Tu sais, je n'ai pas forcément de gros dons, de gros talents, d'un appel incroyable pour pouvoir soit chanter. On voit toujours le côté du ministère en avant, alors que, en fait, non. Chacun d'entre nous avons été designés par Dieu pour lui offrir une louange chaque jour avec notre vie, mais aussi avec nos mains, avec nos disponibilités, avec notre cœur pour pouvoir servir. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Essaye de faire le maximum pour démontrer Christ en action, l'amour en action. Alors qu'on est impliqué dans notre église locale, on est là et puis on se dit, Seigneur, merci pour ce que tu fais. Et puis chaque jour, je rencontre des chrétiens puis qui me disent, oh, on est tellement heureux de voir l'église revenir, puis se développer, puis les enfants, puis on voit des familles revenir, on voit des gens nouveaux être accueillis et puis vraiment être impactés par le message de l'amour. Ça, c'est notre plus grande fierté, vous le savez. Et vous savez combien de personnes ça demande en arrière de ça pour arriver à avoir des célébrations du dimanche incroyables? Ça demande 80 bénévoles juste pour rouler un dimanche, pour deux réunions. On ne dirait pas comme ça. On dirait, ah oui, ils sont où ces bénévoles? Ils sont partout où vous ne les voyez pas. Parce que si vous les voyez, des fois, les bénévoles, c'est qu'il y a un bug. Okay? Les sonorisateurs, vous ne les verrez jamais en avant, à part s'il y a un bug. Mais par contre, c'est un petit peu comme... On ne les voit pas jusqu'à temps qu'il y ait un bug, mais en même temps, on prend pour acquis que tout va bien. Mais c'est parce qu'ils travaillent fort. Depuis 6 heures ce matin, ils sont là, à être là, à gérer le son pour qu'on puisse arriver. Puis la louange soit là avec une bonne qualité, avec des micros qui fonctionnent. Parce que s'il n'y a pas de micro en ce moment, je me casserai la voix, je ne pourrais même pas vous prêcher. Il y a quelque chose que chacun donne son excellence. Il y a 80 bénévoles, on a fait le compte cette semaine, Sophie m'a donné le compte. 80 bénévoles pour rouler un seul dimanche. C'est énorme. Par contre, je disais au staff cette semaine, est-ce que si vous preniez le double des bénévoles en ce moment dans vos ministères, vous aimeriez ça? Ils étaient comme, oh, wow, oh oui. Chaque personne dans nos ministères, on dit, si tu avais plus de bénévoles, qu'est-ce que tu ferais? Je pourrais développer ça, je pourrais ouvrir telle classe avec les enfants, je pourrais faire ci, ça, 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 ça. Je pourrais faire plein de choses s'il y avait du monde qui venait servir son église, servir les autres, servir Dieu au travers de l'église locale. Une statistique incroyable aussi, c'est que vous connaissez les 80-20? C'est que dans une organisation, il y a souvent 20% des personnes qui portent le poids pour les 80 autres. Il y a comme 20% qui travaillent pour le 80 qui profitent. Est-ce qu'à cette église, on pourrait changer la donne? 80% des personnes qui portent pour que 20% qui arrivent soient les VIP. Les personnes qui viennent ici pour la première fois, on leur dit, hey, asseyez-vous, faites rien, prenez un café quand on pourra. Prenez un café, soyez bénis, on va vous offrir des choses, on va vous montrer l'amour en action parce qu'on est là pour démontrer l'amour de Dieu qui a tout donné, qui s'est sacrifié pour que nous puissions profiter. 80-20, est-ce qu'on pourrait changer la donne? 30 bénévoles juste à NV Junior. On ne les voit pas, les enfants. Quand ils arrivent, ils passent le kit-check, bouf, ils partent en bas. Mais si vous avez une réunion tranquille où vous pouvez rester, vous, parents, assis à profiter et écouter le message, c'est parce qu'il y en a en ce moment qui sont en train de faire des pieds et des mains, qui sont en train d'animer une réunion incroyable pour les enfants, pour leur annoncer Jésus et pour que nous puissions être là et nous concentrer sur le message pour les adultes. 30 bénévoles pour NV Junior seulement, pour un dimanche. Pas pour un dimanche, pour un mois. Mais là aussi, les pouponnières réouvrent la semaine prochaine. Et en ce moment, c'est un pas de foi parce qu'on n'a pas tous les bénévoles pour rouler toutes les classes en ce moment. C'est même pour ça qu'on s'est dit, il faut que dans ce mois-ci, à Nouvelle Vie, dans tous les sites, on parle de l'implication, de faire que si tu crois en Dieu, si tu veux aimer Dieu, il faut que tu aimes et que tu serves les autres. Quelqu'un veut dire, ouais, mais moi je veux servir Dieu. Dieu, il a très bien dit, Jésus, il a dit, si tu veux me servir, sers les autres. Si tu mets un manteau sur quelqu'un qui a froid, t'es en train de me réchauffer moi. Si tu donnes de la nourriture, comme avec Mission Nouvelle Vie ou avec les organismes humanitaires qu'on soutient par vos offrandes à chaque fois qu'on vient et qu'on donne, ça aide à quelqu'un pour avoir de la nourriture, pour avoir quelque chose, une commodité. C'est grâce à nous. Et à chaque fois qu'on le fait, pour le plus petit d'entre eux, c'est pour Jésus qu'on le fait. Et ça, c'est une puissance incroyable. C'est qu'on ne vient pas juste servir une communauté, on vient servir Dieu au travers de la communauté. L'Église ne se bâtit pas avec le talent de quelques-uns, mais avec le sacrifice de beaucoup. Je vais vous le dire, alors que je pensais à ça cette semaine, je me disais, je suis tellement béni de voir que l'Église grandit et que les gens reviennent à l'Église et qu'on vive des bons dimanches et puis que la louange est forte et puis que dans une réunion d'une heure et quart, 1h20, on arrive à tellement vivre des moments puissants qui nous encouragent à vivre une vie droite toute la semaine et à continuer le moment de louange dans notre voiture quand on part le matin, à continuer d'écouter la parole pour être nourri. Tellement fort ça! Mais si on pouvait être deux fois plus nombreux à servir les dimanches, notre église locale, ça ferait une différence incroyable. Ça continuerait à faire quelque chose qui marque cette société. On ne peut avoir une église qui avance malheureusement avec des chrétiens qui restent assis. Et je ne vais pas vous demander de vous lever maintenant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont impliqués chaque dimanche et puis qu'en ce moment ils sont assis. Et il y a une part de on donne et on reçoit. J'aime tellement quand j'entends un prédicateur ici et que je suis assis, je suis béni. Mais il y a un temps pour donner, il y a un temps pour recevoir. Et il y a un temps pour recevoir, il y a un temps pour donner. En ce moment, où es-tu impliqué? Où es-tu en train de donner, en train de servir, en train de démontrer l'amour en action? Je veux remercier chaque bénévole proactif qui, chaque dimanche, dit « Hey, si jamais il y a besoin, tu me dis, moi je peux être là, je peux être dans le stationnement, je peux faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Je veux servir. » Et une des choses qui m'a marqué la première fois que je suis venu, alors que les musiciens reviennent, terminé dans quelques instants, alors que je réfléchis à ça, la première chose que j'ai vue à Nouvelle Vie, je suis arrivé il y a 13 ans maintenant, et puis quand je suis arrivé, il y avait des gens qui plaçaient les gens qui étaient placeurs. Et puis, il y avait des ministères partout à l'église, et je me dis, waouh, ça roule, incroyable. Et puis quand j'ai appris que ces gens-là étaient bénévoles, je me dis, c'est fou, parce qu'ils ont l'air tellement professionnels. Et puis, au plus j'apprenais à les connaître, au plus je me rendais compte que ces gens-là étaient incroyablement importants dans la société. Il y avait des gens qui étaient des chefs d'entreprise à un très haut niveau, impliqués sur le plancher avec tout le monde, avec un petit suit, puis on ne le voyait pas, c'était Calvin Klein ou Walmart. Pas, non, tu ne le voyais pas, mais il était super bien habillé. Et puis voilà, asseyez-vous et tout ça, juste à servir chaque personne, qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas. Et puis en apprenant à connaître, je dis, comment c'est possible qu'un homme qui est tellement respecté, qui a des centaines d'employés en dessous de lui, qui est une multinationale quasiment, et là, servir l'Église d'une manière bénévole, sans aucun « applaudissez-moi, regardez ce que je fais ». Non, dans l'humilité, vraiment, avec un esprit de service incroyable. Je me dis, ces gens-là ont un talent incroyable pour faire rouler des entreprises et puis une business mind, waouh, incroyable. Mais ils sont là juste les dimanches à dire « bienvenue à l'Église, est-ce que vous voulez que je vous prépare un siège ?» Ça, c'est moi quelque chose qui m'a renversé. Parce que je me disais, ça ne marche pas avec ce que la société nous dit. On cherche toujours à être servi. À être tellement bien financièrement que j'ai beaucoup de serviteurs, des gens qui me servent autour de moi. Jésus, il dit, c'est l'inverse dans mon église. Et peu importe la faveur que tu as entre des mains, au niveau séculier, peut-être que Dieu t'a donné une mentalité tellement business que tu réussis tout ce que tu entreprends, et puis t'es bien financièrement. Et puis, remercie Dieu parce que c'est Dieu qui te donne cette faveur-là. Par contre, dans son église, il te dit, si tu veux être grand dans le royaume des cieux, sois celui qui sert les autres. Celui qui va être le plus grand, soit le plus petit. Ça ne veut pas dire de se rabaisser, de s'humilier. Non, non, ça veut juste dire, pète pas les bretelles. Sois pas celui qui essaye de clinquer avec son orgueil, à dire, regardez tout ce que j'ai. Non, tout ce que tu as, c'est par la grâce de Dieu. Mais dans cette église, c'est comme, que je sois riche et que tu sois pauvre, peu importe, notre âme devant Dieu, c'est qu'il a donné sa vie à la croix pour que nous puissions, toi et moi, être sauvés. Alors, il n'y a pas une question de, moi, je suis plus grand que toi. Non, moi, je suis là pour te servir. J'ai une illustration que je vais mettre là. Quand je pensais à cette semaine, je me disais, c'est tellement fort, alors que des fois, on cherche, puis je parle des fois avec des chrétiens qui me disent, « Ah, mais moi, j'ai des talents comme ça, et puis j'aimerais faire ça, mais en arrière, je ne vois pas leur esprit de service. » Et il y a des gens qui ont beaucoup de talents. J'ai vu dans cette église, et dans plein d'églises que j'ai vues, des gens incroyablement talentueux, mais avec aucun esprit de service. Et vous savez quoi, dans le royaume de Dieu, ça ne marche pas. Peu importe le talent que tu as, peu importe la voix que tu as comme un chanteur incroyable, si tu n'as pas un cœur pour servir les autres, pour, avec de l'humilité, venir dire, hey, moi, s'il faut faire quelque chose d'autre que ce que je suis appelé à faire, ce que je veux faire, ben, je le ferai. Il y a des gens, des fois, qui viennent, puis après 3-4 semaines à l'église, ils disent, hey, moi, j'ai un appel de prêcher. Fais-moi prêcher. Puis je dis, ah, bienvenue, gloire à Dieu, merci pour les dons et les talents. Est-ce qu'en ce moment, tu es membre? Est-ce que tu es impliqué avec nous? Non, je veux prêcher. Est-ce que tu es serviteur en ce moment à l'église? Viens servir avec nous. Apprends l'ADN de l'église. Regarde, on est une église. Oui, des fois, c'est beau ce qui se passe ici. Waouh, tout est prêt. Mais en même temps, c'est juste des serviteurs ici. Il n'y a personne qui vient pour dire, regardez-moi. Non. Il n'y a pas de plus grand joueur qu'un autre ici. Réellement. Et on est tous là pour servir Jésus, en se servant les uns les autres. Si je sers son épouse, imaginez comment Dieu, l'épouse et l'Église et l'épouse de Christ, comment Dieu donne une faveur à celui qui aide son Église, à celui qui sert son Église, à celui qui aide, qui donne, qui la rend plus belle chaque dimanche, qui va se sacrifier pour qu'elle puisse recevoir. Notre appel ne commence pas avec nos talents, notre appel commence avec notre capacité à servir les autres avec notre talent. L'humilité. Et alors que je pensais à cette semaine, je me disais, c'est incroyable dans une société où aujourd'hui, on peut tellement être enflammé de tous les bords, tous les côtés. Le monde rempli d'orgueil, chacun veut être servi. Chacun veut sa place, quitte à couper les autres et puis à s'enflammer. Et puis, à un moment donné, je réfléchissais à ça, je me disais, c'est fou parce que ça en prendrait juste un. Un qui s'humilie, un qui se sacrifie pour que tous les autres soient sauvés. Le feu s'arrête là. Quand il y en a un qui décide de dire, hey, c'est pas mon orgueil, c'est moi qui vais. Non, c'est que tous ceux qui sont derrière moi, ben moi, s'il faut, je vais m'abaisser, je vais servir avec humilité. Je vais être là pour que le feu s'arrête. Mon père est pompier, j'ai des notions, ne vous inquiétez pas. Philippiens 2:5, ça continue, alors que Paul encourage l'Église à être unie, à s'aimer, à se servir. Il dit, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine, il n'a pas regardé à l'égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. En devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Si Jésus qui était dans une gloire incroyable, un confort incroyable, mais a dit, s'il y a quelqu'un à sauver, moi je vais descendre, je vais le servir. Jusqu'à la mort de la croix, et Dieu ne nous demande pas de mourir à la croix pour les autres, il l'a déjà fait. Par contre, il nous demande de servir à son image. Parce que s'il y a quelqu'un dans ce monde qui doit représenter son amour, c'est son Église. Et son Église, c'est un grand mot quand on parle, oui, l'Église universelle, non, c'est l'Église locale. Au plus l'Église locale le représente, au plus il y a une puissance dans l'amour, l'unité, le service que le monde va voir comme « Waouh, on ne croit même pas dans ce que vous croyez, puis vous êtes là pour nous servir, vous êtes là pour partir en mission, à aller évangéliser partout, à donner à manger à celui qui a faim, à être là chaque dimanche, à ouvrir les portes pour les enfants. » Et par la foi, commencer à continuer d'ouvrir les places pour les enfants, même si on n'a pas, parce qu'on ne veut pas empêcher les enfants de connaître Jésus-Christ, on veut les encourager. Mais on croit que à l'image de Jésus, on ne va pas regarder à qui nous sommes ou notre confort, où j'ai déjà tellement servi à l'Église. Non, non, non. Dieu te dit, est-ce qu'il y a une nouvelle saison où tu vas, alors que tu vas venir servir, tu vas être renouvelé. En ce moment, peut-être dans votre vie spirituelle, vous dites, j'ai l'impression que c'est sec. Viens servir, Dieu va te redonner une huile fraîche, une huile de joie, une huile où tu vas dire, waouh, j'aime tellement ça, aider, aimer, servir Dieu. Ça aussi, c'est une louange.